Allez, bonsoir à tous. Je vais commencer par l'appel. Donc, Jacques Sommeveil, Vanessa Savini, Jean-Pierre Monnet, Myriam Charamadzi, Gisèle Genin, Raymond Baudin, Jean-Pierre Marion, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Bluna, Béatrice Roson, René Roja, Nicolino Tournambé, donc absent pouvoir à René Roja, Patricia Morgano, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, absente pouvoir à Myriam Charamadzi, Anne-Cécile Germain, absente pouvoir à Delphine Raymond Allong. Delphine Raymond Allong. Véronique Bérard. Alexandre Luxos, absente pouvoir à Nicolas Bossupica. Nicolas Bossupica. Éric Silvestrini, Christine Curteau, Daniel Mansip, Cécile Gaillard et Cécile Bizillon. Le quorum est atteint. Je commence par l'approbation. L'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 janvier 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc la désignation du secrétaire de séance, eh bien, je propose Nicolas Bossupica. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Profites-en, tu verras, ça ne dure pas tout le temps d'être le plus jeune. Donc on arrive à la délibération donc 2025-04, qui est le débat d'orientation budgétaire. Et là, je laisse la parole à l'adjointe aux finances.
Bonsoir à tous. Donc, ce débat d'orientation budgétaire, hein, je le rappelle, est défini comme une discussion qui est tenue lors du conseil municipal. Il porte en fait sur les grandes lignes du budget de l'exercice en cours et formellement, il est matérialisé par une délibération. Donc, ce soir, j'ai proposé que l'on voit ça sous forme de présentation. Donc, on va vous mettre un petit peu dans les grandes lignes ce que ce débat va représenter. On rappelle également que c'est une première étape formelle au cycle budgétaire de notre collectivité et que cela intervient lorsque la préparation du budget par l'exécutif et par les services est déjà largement entamée. Donc pour ce débat d'orientation budgétaire pour 2025, on vous rappelle un petit peu le contexte. Je vais attendre que ça apparaisse. Donc on va vous rappeler les principales mesures de la loi de finances 2025 qui ont un impact sur le budget de la ville. Donc, c'est typiquement des choses que l'on doit faire figurer sur ce débat d'orientation. On vous rappelle qu'il y a donc la baisse du taux du FCTVA en investissement qui passe de 16% à 14%. Donc, c'est un impact qui est estimé à environ moins 50 000 euros sur 2026. La suppression du FCTVA sur la partie fonctionnement, donc l'impact sur 2025 est à hauteur d'environ moins 10 000 euros. La hausse du taux de cotisation patronale à la CNRACL à plus de 3% et l'URSSAF à plus de 1% pendant 4 ans, ce qui représente une hausse de 32 000 euros sur 2025 et environ 130 000 euros jusqu'en 2028. La réduction du fonds vert qui passe de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard d'euros. Le maintien des dotations de soutien à l'investissement, la reconduction de l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement et la répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Donc on vous a fait figurer un petit peu les chiffres hein, que ça représenterait sur le budget. à la demande de certaines personnes à la dernière commission finance. Donc vous voyez qu'il y a quand même de gros impacts. Sur les orientations sur le budget de 2025, nous souhaiterions poursuivre une politique de sobriété énergétique, continuer à avoir un engagement très fort auprès des enfants et de la jeunesse, notamment par la construction de l'école de la Mayette, ainsi que des personnes les plus vulnérables avec un soutien important au CCAS de la ville, et puis continuer toujours et encore le développement d'actions qui seront mises en œuvre en lien avec les habitants. Continuer le développement des actions culturelles et patrimoniales qui permettent de créer toujours du lien social sur notre ville avec la continuité du Salon du Livre, la Fête de la Musique, les Fêtes de la Rosière et puis cette année chez nous la Fête du Saint-Marcelin et de la Noix, ainsi que continuer le soutien à nos associations culturelles de la ville et puis un maintien du soutien au tissu associatif qui est très dense. On vous a mis sous forme de tableau ce que représentait un petit peu l'évolution des charges à caractère général. Donc là où il faut se concentrer, c'est sur le CA estimé de 2024. Donc sur ce que l'on avait prévu au budget, hein, on n'a pas vraiment de mauvaise surprise. On a une forte augmentation qui est due à l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc vous voyez qu'on avait prévu à peu près 21% sur le premier tableau et que l'on est sur un estimé à environ 20%. Donc nos estimations étaient plutôt bonnes. Si nous devons résumer, hein, l'augmentation sur le budget électricité a une hausse considérable à plus de 167 000 euros. On vous a mis un petit peu le détail. Donc sur 2024, il y a eu une consommation d'environ 746 mégawattheures au prix moyen de 401 euros par mégawattheure. Un comparatif sur 2023, où on était à 862 mégawattheures au prix moyen de 171 euros. Donc vous voyez que le prix de la consommation, hein, a fait un bond entre 2023 et 2024. Donc c'est principalement la plus grande hausse du budget. Sur les dépenses, les orientations proposées, eh bien c'est continuer la poursuite des travaux d'économie d'énergie, hein, comme on peut. Donc je vous rappelle qu'on a un agent qui travaille là-dessus. Mettre en œuvre une politique d'achat qui permet de diminuer les coûts, notamment par les groupements de commandes. Maîtriser les dépenses d'énergie afin de préparer les très forts surcoûts qui seront encore liés à l'augmentation des tarifs d'électricité. La fermeture de la piscine pour des raisons de sécurité. Donc là, voilà, ce sera une dépense en moins. Regrouper les achats permettant d'obtenir les meilleurs prix lors des mises en concurrence. Développer les groupements de commandes avec d'autres collectivités. Et puis, continuer à analyser par détail chaque dépense. Sur l'évolution des charges de personnel, donc vous voyez que sur le budget 2024, on pensait à une hausse d'environ 4% et on arrive sur une estimation à 2,5% environ. Donc là-dessus, il convient de prendre en compte et de noter les évolutions qui se sont imposées à la ville depuis 2021 par l'augmentation du point d'indice avec une hausse de 5%, la revalorisation de 5 points d'indice pour l'ensemble des agents et puis l'augmentation du SMIC avec une hausse de 17%. Donc en 2025, l'augmentation des cotisations CNRACL est à hauteur de 3% par an pendant 4 ans et les cotisations URSSAF, comme je vous l'ai dit au début, à plus de 1%, soit 32 000 euros. Au niveau des orientations proposées pour les dépenses de personnel, eh bien, c'est de limiter cette augmentation par rapport au budget 2024. Donc, toujours poursuivre la maîtrise de nos dépenses de personnel, étudier à chaque fois eh bien, les départs à la retraite, les démissions, et ne pas remplacer systématiquement. Essayer voilà, de faire avec les agents que l'on a et puis d'optimiser les missions de chacun. Ajuster l'organisation des services pour limiter les remplacements suite au départ. Le maintien des avantages sociaux, ça c'est important pour les agents. Là, on ne peut pas se le refuser. Avec une augmentation de la participation employeur pour la prévoyance, c'était un réel engagement de notre part. Et puis l'augmentation à prendre en compte des cotisations comme annoncé précédemment. Ce débat d'orientation budgétaire mentionnera aussi la partie subvention, hein, donc le maintien du soutien aux associations. Continuer donc nos versements de subventions aux associations au même niveau que 2024. Demander des efforts aux associations sur le nombre, par exemple, d'impressions et puis la consommation en chauffage et électricité. Ajuster la subvention du CCAS en fonction du besoin réel. Donc, on vous a mis un petit tableau qui différencie la partie générale du versement des subventions aux associations et puis à part la subvention que l'on verse dans le cadre des voyages scolaires et notamment du voyage à Carfani. Donc vous voyez que ça représente un total de 193 153 euros. Aujourd'hui, on a 272 enfants concernés par les voyages scolaires, y compris le voyage à Carfani, qui représentait environ 63 enfants, qui représentera environ 63 enfants sur 2025. On a une légère hausse au niveau des subventions. Pourquoi? Parce qu'on a dû réadapter certains versements, notamment pour la gym et puis les archers, notamment suite à un vol, et puis aussi pour se réadapter aux conditions et à la grandeur du nouveau gymnase. Et puis, on a confier quelques frais d'entretien à deux associations, notamment pour les vestiaires. Au niveau de l'évolution des recettes, donc on vous a remis un petit peu le tableau, hein, ce qui représente sur une estimation 2024 à peu près une hausse qui représente 11%. Donc on a eu un peu d'augmentation qui comprennent plusieurs choses, notamment sur la base d'imposition, l'augmentation des dotations et puis tout ce qui est revenu un petit peu des immeubles qui ont augmenté. On vous a remis en dessous ce que représentaient aussi les taux au niveau des taxes foncières et autres impôts locaux, donc la fiscalité directe. Et puis la hausse, hein, bien évidemment, de la taxe sur l'électricité qui est due à une augmentation. Une consommation un peu plus forte sur l'énergie. Au niveau des recettes, on a donc l'hypothèse d'une augmentation des bases nationales, donc à peu près plus 2% sur 2025. Continuer à rechercher des pistes de recettes nouvelles, hein, par exemple de la mise à disposition de toitures pour du photovoltaïque. Avoir une réflexion sur l'augmentation des tarifs, notamment sur l'occupation du domaine public, et puis le périscolaire. La refacturation des moyens de la ville mise à disposition, devinez, chaleur-bois, et puis la poursuite, la recherche de subventions sur l'ensemble des projets d'investissement, et puis la vente de biens immobiliers. Sur les dépenses d'investissement, pareil, donc très synthétiquement, on vous a remis un petit peu les dépenses d'équipement réalisées et puis les acquisitions pour réserve foncière, ce qui nous laisse un total à presque 14 millions d'euros. Voilà, donc il y a eu ces dernières années différentes acquisitions hein, avec la SCI des Augustins, le Tenmental Yajiro, le Château, et puis Minga, voilà, et puis quelques indemnités qui font référence à la libération du terrain de la gendarmerie. Donc on vous a mis ce que représentait le financement des investissements avec la partie emprunt en jaune, soit 41%, l'épargne nette à 6%, les subventions perçues avec les autres recettes à hauteur de 21%, et puis les dotations du FCTVA et des produits de cession à hauteur de 32%. Donc vous voyez que voilà, ça reste des dépenses d'investissement qui sont plutôt saines et bien réparties. Sur les grands projets 2025, nous aurons la fin des travaux de l'école Mayette, l'ouverture du parc et des sentiers autour du château Montvinet à destination de nos habitants. Des travaux d'économie d'énergie. Nous souhaitons aussi isoler les combles de la mairie, continuer le remplacement de l'éclairage LED au niveau du périscolaire et de l'école maternelle, la mise en place d'un logiciel de suivi de consommation avec pilotage, travailler encore sur un petit peu l'extension d'accessibilité sur notre domaine voirie, continuer l'entretien de nos bâtiments communaux et puis l'acquisition de matériel et équipements pour les services ainsi que de logiciels. Donc il n'y a pas de grandes surprises. Pour financer ces projets, on continuera à les assurer par les ressources propres, hein, par l'autofinancement et puis les amortissements et le FCTVA, par potentiellement des cessions de terrain et de bâtiments, et puis avec le travail que l'on effectuera pour toucher des subventions de différentes collectivités et organismes, notamment pour le projet de l'école. Mais bon, dernièrement, on a quand même eu une très bonne nouvelle. C'est le versement prochain dans le cadre du fonds européen d'environ 1 million d'euros pour l'école. Au niveau de l'état de la dette, on a un encours de la dette au 31 décembre 2024 qui est à peu près à 6 millions d'euros. Au cours de l'exercice 2024, on vous rappelle que la commune a emprunté 2 millions d'euros pour financer les travaux de la nouvelle co construction de l'école. L'annuité 2025 sera d'environ 601 000 euros et elle regroupe le remboursement du capital et des intérêts. Au niveau du budget Vinet Chaleur Bois, donc on a une évolution des charges de fonctionnement à caractère général qui se porte sur une baisse de 4% sur le CA estimé, et puis une évolution des recettes qui est à moins 25%. Pour les principales orientations de ce budget, c'est de poursuivre le développement du réseau avec le raccordement des bâtiments comme la médiathèque intercommunale, l'immeuble Le Martinet, la maison paroissiale et puis le château Montvinet ainsi que ses annexes et bien évidemment la nouvelle école. Continuer les études pour installer une production d'électricité autonome hein, par le photovoltaïque sur la toiture de la chaufferie, voire au sol pour de l'autoconsommation dans le but de réduire les factures d'électricité. Et puis un projet d'étude sur un ballon tampon afin de réduire la consommation d'énergie fossile. Pour le budget Montvinet en 2024, les dépenses de ce budget concernaient principalement les études de maîtrise d'œuvre pour la création du projet hôtel-restaurant. Donc les dépenses se sont portées seulement à ça. Et aujourd'hui, pour 2025, on continue notre phase phase études pour finaliser le projet. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce débat. Aujourd'hui, pour ce conseil, on ne le vote pas, hein, on prend acte. Donc, si vous avez des questions. Oui.
Quand est-ce qu'on aura les résultats consolidés de 2024 au niveau financier ?
Probablement pour le vote du budget, mais pas sûr, parce qu'on n'aura pas tous les éléments encore de la trésorerie. Donc on fera probablement le CA au mois d'avril. Il y a des chances. Ouais. On attend les retours de la trésorerie.
Okay. Est-ce qu'on a connaissance du taux d'endettement de la municipalité ? Parce que là, on l'a en valeur absolue, mais en pourcentage, ça représente quoi ?
Comme ça, je ne peux pas vous le donner de tête que ça.
Mais on pourra avoir les infos.
On vous le préparera, oui.
Ok. Après, j'avais des questions, en fait, notamment par rapport à la piscine et ce qui est dit sur la piscine. Donc là, la piscine, elle ferme et il est noté que les dépenses, finalement, il y aura moins de dépenses pour la piscine, mais ça va être pas significatif parce qu'il y a des frais qui vont être engagés pour que les enfants ils aillent à Chatte. Donc on est d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est que pour que les scolaires ils aillent à la piscine apprendre à nager. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé pour cet été par rapport au fait qu'il n'y a pas de piscine pour les habitants, qu'il y a plein d'habitants qui ne partent pas en vacances et que c'est quand même une proposition de loisir? Et en fait, la question, je la mets en lien avec ce qui a été dit la dernière fois sur le fait qu'il y a le CCS, pardon, que le CCS est en préfiguration d'un espace de vie sociale et qu'il y avait des actions qui étaient pensées à destination des habitants. Et comme c'est aussi une priorité, là, le développement des actions pour 2025, je voulais savoir comment ces choses-là étaient pensées et comment ça se traduisait budgétairement aussi.
Ça sera évoqué lors de la prochaine commission que Jacqueline Sommeil va mener avec la commission sociale. Donc effectivement, il y a toute une réflexion de fiches qui sont mises en place, des actions. Il va y avoir des points de rencontre avec les habitants, mais là, ce sera évoqué en commission, donc je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir, puisque la commission n'a pas encore travaillé ni statué dessus, mais j'ai travaillé avec le premier adjoint là-dessus et c'est des choses qui arrivent. Il y a toute une fiche d'action qui est programmée, qui sera présentée à la prochaine commission le 11 mars.
Mais ça, c'est dans le cadre de la préfiguration de l'espace de vie sociale. C'est indépendant de la fermeture de la piscine.
Il y a des choses qui seront évoquées à ce moment-là.
Oui, et puis qu'il y ait plein de familles qui partent pas en vacances aussi et que les tarifs de la piscine de Vinay sont super faibles et que du coup, ça permet à plein de gens d'avoir accès à des loisirs.
C'est le sujet de la commission du 11 mars.
Ok, super. Et après, concernant les dépenses de Mont-Vinay, là, on a plutôt un bilan 2024 et quelles sont les projections de 2025 ? Quelles sont les recettes ? Comment tout ça s'est financé ?
À l'heure actuelle, les phases études ne sont pas terminées. On a effectivement un souci avec notre équipe de maîtrise d'œuvre qui a pris beaucoup de retard. On a une défaillance à l'intérieur d'un bureau qui a dû être donc remplacé. Donc aujourd'hui, on a énormément de retard là-dessus. Donc on n'a pas aujourd'hui de prévisionnel pour 2025 à un moment où je vous parle. Donc on en est aux phases études, mais on n'aura pas pour l'instant d'éléments nouveaux sur 2025.
Et on sait quand est-ce qu'on les aura ?
Je ne peux pas vous dire.
Ok. Et après, un point de vigilance sur les dépenses, la maîtrise des dépenses concernant les frais de personnel, renouvellement quand les gens y partent à la retraite, etc. Être attentif à ce que ce ne soit pas en face moins de services publics pour les habitants quand même.
Voilà. Bien sûr, toujours.
Oui, alors.
Oui, mais en fait, toujours, mais à force, parfois, ça tire un peu, en fait. On voit que ça bouchonne un peu dans l'entonnoir.
Mais on vient de vous le signifier. Hein. Aujourd'hui, sur la partie retraite et la partie URSSAF, à terme, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on parle de 32 000 en 2025, 64 000 en 2026, 96 000 en 2027 et 130 000 en 2028. Ça veut dire que ça, à partir de 2028, c'est 130 000 de moins qui vont être dans la capacité d'investir de la commune. sans compter toutes les autres petites reliquats, on est à peu près à 200 000 de moins. Et il y aura, on ne sait pas l'évolution de l'énergie, mais on est à 160 000 de plus de coûts d'énergie, malgré une économie de 10 à 12% avec les efforts qu'on a faits, en particulier sur l'éclairage, et on va encore continuer les efforts. Mais c'est, on parle entre, dans le meilleur des cas où l'énergie revenait à un prix qu'on a connu, ce que je ne crois pas du tout, les observateurs aujourd'hui économistes ne pensent pas, on est entre 200, si le prix reste comme aujourd'hui, c'est 350 000, en gros, on va être quand même sur une perte de recettes, une dépense imposée qui va être de plus de 300 000 du fait de la loi de finances qui a été proclamée ces jours-ci et de l'énergie. Donc, à un moment donné, il faudra probablement se poser des questions sur comment on travaille dans l'avenir. Effectivement, peut-être qu'il y aura des choses à revoir sur les services, c'est évident. Mais 300 000 de moins demain, imposés par des annonces extérieures, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix de la collectivité, c'est-à-dire que c'est un changement de règles en route, il faudra se poser des questions, effectivement. C'est un vrai sujet. Mais je vous dis quand même que les 200 000, on vient quand même de l'apprendre pratiquement il y a quelques jours. Hein. Donc c'est sûr que collectivement, on devra se poser ces questions. Enfin, vous avez quand même lu à peu près dans la presse tous les débats d'orientation budgétaire qui ont été faits dans les communes de l'Isère ou de France. Hein. On est aujourd'hui en train de tuer les collectivités locales, pour être clair. C'est-à-dire quand on supprime comme ça, par un coup de baguette magique, on dit on enlève 130, 150, 200 000 euros aux collectivités locales, faut bien se douter qu'à un moment donné, il va y avoir quelques conséquences, quoi. Et on est à pratiquement, entre tous les effets d'annonce qu'on nous a fait depuis maintenant 2 ou 3 ans, on est pratiquement à hauteur de 350 000 de baisse de recettes. Donc il faut bien se douter qu'à un moment donné, il va y avoir des conséquences. C'est trop tôt, on n'a pas eu le temps d'en tirer les conclusions encore aujourd'hui, mais c'est évident, dans la mesure où aujourd'hui, on a enlevé toute la fiscalité directe et tout le pouvoir des collectivités, il ne reste plus que la taxe foncière, hein, je vous rappelle. Donc, il est évident qu'à un moment donné, il va y avoir des choix à faire. On ne pourra pas continuer comme ça sur une politique comme ça, où on tape sur les collectivités. Et je vous rappelle que nous, à la différence de l'État, nos budgets sont à l'équilibre. Hein. C'est-à-dire que je ne vous annonce pas chaque année un déficit de 4, 100, 2 ou 3 millions d'euros, hein, parce que ce serait facile. Hein. Nous, nos budgets sont à l'équilibre. Donc, l'État, aujourd'hui, tape sur les collectivités locales. Par contre, se permet d'avoir des budgets toujours en déficit. Par contre, nous, on nous enlève à chaque fois encore. Et c'est nous qui faisons les pots cassés. Donc pour la commune de Vinay, notre modeste commune de Vinay, on parle quand même entre autres d'une perte de 2 à 300 000 euros, ce qui est énorme, énorme. Ce qui représente à peu près un emprunt de 5 millions d'euros, hein, pour la petite histoire. Hein. C'est pas négligeable. Donc effectivement, oui, il y aura probablement collectivement des décisions. Mais on n'a pas pu ouvrir le débat encore, parce qu'on l'a appris il y a très peu de temps.
C'est au jour le jour, en fait.
Et je ne sais pas ce qu'on aura encore demain. Hein. Je vous rappelle quand même que si on imaginait les scénarios plus pessimistes qu'on avait pu imaginer au moment de la campagne des élections législatives, pour notre commune de Vinay, on avait quand même chiffré le programme de certains candidats, on perdait encore 200 000. Donc voilà où on est. Là, c'est du factuel, hein, je ne fais pas de politique, hein, je suis juste un maire de campagne qui prend les infos et qui les subit et qui doit aujourd'hui après les appliquer. Voilà. Par contre, oui, effectivement, à la différence peut-être des citoyens, quand je lis un programme électoral à l'échelle nationale, j'essaye de faire le calcul de ce que ça va coûter à ma collectivité. Et là, effectivement, je transpire à grosses gouttes et je vois effectivement, contrairement à ce que ce même programme annonce, certains services qui vont disparaître, puisque je ne vois pas comment on pourra les payer, puisqu'on n'a pas le droit au déficit. Donc, évidemment, je suis un peu dans l'expectative aujourd'hui quand je vois tout ça. Et avec grand désespoir, je me dis qu'effectivement, il y aura peut-être certainement des choses qui devront être modifiées dans l'avenir. Alors, peut-être pas dans l'avenir immédiat, mais en tous les cas, si on continue cette cadence à terme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant qu'on passe à... Pas d'autres sujets sur le débat d'orientation budgétaire? Il n'y a pas de vote là. Merci. On passe toujours à Myriam, mais sur le régime indemnitaire, le fameux régime indemnitaire de la police municipale qui a été largement évoqué en commission.
Et puis je rappelle que dans la continuité du DOB, donc on aura notre vote du budget au prochain conseil municipal.
Avant les commissions finances.
Voilà. Donc on passe à la délibération 2025-05. Donc, qui porte sur le régime indemnitaire de la filière police avec l'instauration d'un cadre spécifique pour l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc cette délibération, en fait, c'est se mettre en conformité selon les décrets en vigueur. Hein. On va voter un cadre qui s'applique aux fonctionnaires qui relèvent des cadres d'emploi de la police municipale et du cadre d'emploi des gardes champêtres, et qui peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire propre dont les modalités et les taux sont fixés par différents décrets. Donc le conseil municipal doit se prononcer sur un cadre de montant maximum qui évoque la part fixe et la part variable pour instituer un régime indemnitaire et en fixer les conditions d'application. Donc cette délibération, elle est là pour fixer tous les cadres en général. Hein. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on n'a pas, on peut être amené à avoir différents cadres d'emploi à l'avenir en termes de recrutement. Donc pour l'instauration de la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement, on a donc des taux maximum qui sont autorisés. Donc nous, par exemple, actuellement, on est sur la ligne des agents de police municipale qui représenterait un taux maximum autorisé à 30%, qui s'applique déjà mensuellement auprès de nos policiers municipaux. Et puis, c'est fixé aussi l'instauration de la part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement. Donc là, ce qui serait une petite nouveauté, on appliquerait... comme pour nos agents de la collectivité, aux policiers municipaux, ça représentera environ 200 euros annuellement. Donc là, pareil, on est obligé dans cette délibération de rappeler par un cadre général les plafonds maximum autorisés. Donc pour revenir à ce que je disais, on vote la totalité des cadres parce que si demain on est... on vient à recruter différents profils ou un autre profil que l'on a actuellement, eh bien, on pourra amplement appliquer ces taux.
Est-ce qu'il y a des questions sur ce régime indemnitaire pour la police municipale ? Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Jean-Pierre Monnet pour la demande de subvention au département de l'Isère pour la liaison V63 et la zone d'activité de la gare.
Donc, comme vous le voyez, ça annule et remplace un dernier texte qu'on vous avait envoyé. Donc, la ville souhaite réaliser une voie permettant le raccordement du centre-ville, en particulier la gare, à la véloroute 63. Alors, cela permettra de desservir la zone d'activité des levées existantes ainsi que son extension qui doit être réalisée en 2025. Raccorder la gare et le centre-ville au projet de surface commerciale prévu de rue de l'Europe, donc c'est peut-être là qu'on verra tout à l'heure le changement. Raccordement de la gare de Vinay, la zone d'activité de Levée et la commune de l'Albingue par le cheminement Mode-Dou qui continue jusqu'à l'Albingue, on le sait. Donc le changement après la commission qu'on a eue, parce que ça faisait l'objet d'une commission qu'on a eue ensemble, et on a trouvé qu'on avait prévu de l'éclairage dans la subvention, dans la demande de subvention, et en fait on enlève l'éclairage et on continue le mode doux devant la rue de l'Europe et devant le nouveau centre commercial. Ça a été unanime de la part de la commission. Donc on demande une subvention de 133 448 à la DETR, 113 431 au DSIL et 310 914 au conseil départemental de l'Isère. Ça représente une subvention de 80% sur la voie verte. Des questions ? Oui. Là, c'est okay. Rouge.
Oui, en effet, on en a parlé lors de la dernière commission. Sauf que depuis, je suis allé faire un tour parce que je voulais voir ce qu'il en était par rapport aux différentes remarques qu'a fait, entre autres, M. Baudin lors de cette réunion. Et je viens d'entendre M. le maire, et à juste titre, nous expliquer que les années à venir risquaient d'être très compliquées. Et je suis d'accord avec lui au niveau des recettes, puisqu'on va être handicapé d'environ, je ne sais pas, 10%, ou en tous les cas, l'équivalent d'un prêt de 5 millions d'euros par an, de remboursement d'un prêt de 5 millions d'euros. Donc la question que j'ai à poser, aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est déjà fait. On est déjà raccordé par la gare. On a déjà le raccord. Alors certes, on passe à l'intérieur des noyers, mais pour des gens qui font du vélo, c'est quand même plutôt sympathique. Donc je me demande à quoi sert réellement ce projet, d'autant plus qu'il y a d'autres choses qui me semblent beaucoup plus urgentes à faire sur Vinet. La deuxième chose, c'est à quoi ça va servir au niveau des Vinois, puisque je me balade beaucoup sur ces routes. Moi, je ne croise pas beaucoup de Vinois. Je croise beaucoup de Grenoblois qui viennent, qui traversent chez nous, qui ne s'arrêtent même pas d'ailleurs, parce qu'ils font du vélo et qu'ils vont vite. Donc, pour ma part, je voterai contre cette délibération parce que je pense qu'elle n'a pas d'intérêt aujourd'hui pour les Vinois, d'autant plus qu'on en a peut-être, en tous les cas, peut-être qu'on n'en aurait plus les moyens dans quelques années ou très rapidement.
Alors, je vais répondre parce que je pense qu'on s'est... On s'est mal exprimé, ou en tous les cas, et là je demanderai à la presse de ne pas forcément relayer totalement ce que je vais dire. En fait, quand on parle, on cite la V63 dedans, c'est juste une petite astuce pour essayer d'avoir des subventions supplémentaires, voire même peut-être le financement à 100% de ce tronçon. En fait, le tronçon qu'on parle, c'est au niveau du pont SNCF vers la famille Gage, si vous préférez, pour aller jusqu'à la gare. Donc ce tronçon-là n'existe pas. Et en particulier pour desservir du coup la gare et la zone d'activité et tout particulièrement l'entreprise de Pagne qui va s'installer. Et eux, ils vont avoir à peu près 200 salariés, dont une bonne soixantaine qui viendront par le train. Donc c'est aussi déjà un des points. Donc là, on aura quand même des usagers vinois sur cet espace-là. Et puis, la desserte, une nouveauté aussi, ça va permettre de desservir le Super U depuis certains secteurs de Vinet, en particulier la gare et les stades. Donc effectivement, par contre, je rejoins tout à fait la position sur l'aspect financier. Aujourd'hui, on est sur des demandes de subventions. On a la loi de finances qui nous est arrivée. Il y a très peu de temps, il y aura des arbitrages à faire, peut-être que ça en fera partie. En tous les cas, aujourd'hui, on ne s'interdit pas de demander les subventions. On est en négociation en off derrière pour voir si on ne peut pas avoir un financement total du département dans le cadre, parce que la V63, vous avez remarqué, elle fait tout plein de zigzags, d'envinés, et du coup, de dire, est-ce que la V63 ne serait pas plus logique, à juste titre, comme tu le dis, comme c'est des gens de passage, qu'ils aient qu'une ligne droite et pas à faire tout ce zigzag. Qui, pour le coup, maintenant, on a quand même des habitations sur cette lunaire de cette V63 avec de plus en plus de partage. Du coup, ce n'est pas forcément sécurisé. Voilà. C'est un sujet, effectivement, et là, je suis d'accord, qu'il faudra probablement remettre en débat en fonction de nos financements qu'on obtiendra, en fonction aussi des recettes qu'on aura d'une manière générale. Donc, aujourd'hui, on demande la subvention. On n'est pas au stade de dire on est sûr de pouvoir le faire. Peut-être qu'on n'ira pas. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu totalement. Mais aujourd'hui, au stade où on en était, puisqu'on avait mené le travail depuis maintenant plus d'un an, on continue à faire les demandes de subventions. Et effectivement, avec les nouvelles donnes, il y aura un certain nombre d'arbitrages. Est-ce que ce sera celui-là ou un autre? Dans tous les cas, il y aura des arbitrages, c'est certain.
Dans cette dernière demande, là, il y avait aussi la signalisation qui permettait de passer devant la gare et de remonter et de rejoindre la 63, justement. Donc c'est ce qu'on a vu avec Guy pour pouvoir faire ce que Philippe disait. Donc c'est compris dans la demande. Alors, déjà, dans un premier temps, on demande 80% de subvention. Donc on espère avoir 100%.
Ok. Ce que je propose, c'est qu'à la prochaine commission, qu'on puisse aller voir. Parce que ce qu'imaginait dans le projet, c'est qu'on s'aperçoit en fait que ce que vous demandez sur ce projet... c'est de décaler cette route cette route cycliste,
La Belle Via, oui.
Voilà, la Belle Via, je ne sais plus comment elle fait, moi je ne fais pas de vélo, hein, je suis désolé, mais cette route, c'est de la décaler de 20 mètres, en fait de la passer d'un côté, du train à un autre côté.
C'est-à-dire qu'elle zigzague un peu
Je trouve que, voilà, après, maire a répondu à...
Il y a une utilité quand même
à mes questions.
Surtout, c'est de la sortie, aujourd'hui, elle traverse les zones habitées et agglomérées, et c'est de la laisser sur un axe purement sécurisé. Bon, et là, l'idée, on essaye de faire en sorte que, du coup, ça soit le porteur, le maîtrise d'ouvrage de la Belle Via, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui, qu'il la porte à 100% et pas la collectivité.
C'est ce que M. Baudin avait proposé. Dans ces cas-là, bien entendu, j'aurais dit oui tout de suite.
C'est ce qu'on essaie.
Mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
Mais à la prochaine commission.
Parce qu'on ne peut pas présenter la demande comme ça.
D'accord, non, non.
On la présente comme ça pour faire une entrée à la discussion. On a déjà commencé à avoir la discussion avec eux. Mais voilà, c'est une entrée. D'accord. Et comme je dis, il y aura un arbitrage. Soit on a la chance d'avoir un 100% pris en charge, auquel cas, bon, je ne pense pas qu'on refusera. Et soit, effectivement, suivant le reste à charge, eh ben, on décidera de ce qu'on fait.
Mais en tous les cas, il faut avoir la démarche. Tu as raison pour la commission, enfin pour la visite. Je pense que ça doit être très intéressant d'aller sur place pour voir le cheminement.
Alors, avec vos arguments, je ne voterai pas vélo, contre, mais je me abstiendrai.
On ira en vélo.
On ira à pied, c'est mieux.
D'autres questions sur là-dessus ? Allez, je mets au voile. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, une abstention. Merci. Toujours Jean-Pierre Monnet sur...
Là, c'est à la fois une abrogation et on remet la délibération donc, pour la demande de subvention pour les travaux. On avait déjà vu ça la dernière fois. Aux dégâts des orages à l'Allégrerie. Donc, en fait, c'est Guy qui nous a trouvé une subvention un peu supérieure pour ces travaux. Donc, il y a une subvention qui était de 4715 et qui passe à 5658. Et puis, il y a un autre élément dans cette délibération, c'est que ça ne s'appelle pas chemin des Bauches, c'est ça, Guy, hein ? Ça s'appelle chemin des Orties. Donc, on a modifié les appellations des endroits où on allait faire le travail. Donc, il y a une subvention supplémentaire et on modifie un peu l'appellation des chemins. Non, on est de 5006 au lieu de 4007.
Je laisse...
C'était la première qu'on avait faite.
En tout cas, sur le rapport de classement de la voirie communale, c'est les Orties, le cheminement.
Et comme nos financeurs se rapportent à ça, on va leur faire plaisir, on va leur donner ce temps-là. Donc c'est les deux délibérations en fait, la 7, donc la 7 elle annule et la 8 redemande.
Elle redemande. Voilà.
Donc je vous fais voter les deux en même temps parce que l'un sans l'autre ça ne marchera pas. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je redonne la parole à Myriam. Pour les emplois permanents, non permanents, un classique. Permanent, ouais. Je sais qu'Eric aime bien ça.
Voilà, donc c'est reparti comme à chaque conseil sur les délibérations qui portent sur notamment la première sur la création et la suppression d'emplois permanents. Donc là, il s'agit de procéder à la suppression de postes dont la pérennité n'est plus justifiée pour les besoins actuel de nos services. Donc sur le pôle ressources, on a la suppression pour une correspondance de poste suite à un recrutement hein, au niveau des ressources humaines. Donc on supprime cette ligne pour le grade d'adjoint administratif territorial. On supprime également une correspondance de poste suite au recrutement et départ à la retraite d'un agent. Au service compta et achat public précisément pour un grade de rédacteur principal de deuxième classe. Sur le pôle administration générale, eh bien, nous avons un agent qui a été valorisé par la réussite d'un concours. Et puis, par rapport à cette réussite de concours, on assure en fait la mise en adéquation des fonctions exercées avec le grade détenu pour la création d'un emploi permanent de technicien territorial. Voilà, donc c'est notre agent qui est au service de l'urbanisme.
Sur
S'il n'y a pas de remarques, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je continue avec la délibération suivante sur la suppression d'un emploi, mais là, non permanent. Donc, pareil, hein, il s'agit de procéder à la suppression d'un poste dont la pérennité n'est plus justifiée pour les besoins internes. Et il s'agit d'une ligne donc sur le grade de rédacteur principal de première classe. Et le motif était sur un renfort comptabilité à hauteur de 4 heures. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Merci. Donc la délibération 2025-11, c'est l'acquisition de la parcelle AH236 d'une superficie de 32 mètres carrés pour son intégration immédiate dans le domaine public communal en vue d'une amélioration de la voirie et l'aménagement du secteur. Donc en fait, pour résumer, la propriété de la famille Rony, du coup, aujourd'hui est divisée. À ce moment-là, donc, il y a eu un bornage de la propriété avec une définition de l'alignement. Lors de la définition de l'alignement, il a été constaté une discordance entre le cadastre et l'alignement, ce qui est un classique, hein, parce que le cadastre est souvent pas très bon en matière en bordure de voirie. Donc, ce qui a fait la création d'une parcelle, on va dire, hors alignement, entre donc, la partie alignement et là, cette parcelle de 32 mètres carrés, du coup, il est proposé une régularisation pour faire les choses un peu plus proprement. Donc, d'intégrer cette parcelle de 32 mètres carrés, bien sûr, à l'euro symbolique dans la partie de la commune. Donc, c'est ce qui est. Ça se situe en face des arcades pour ceux qui n'avaient pas pu situer sur le plan. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Je mets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La délibération 2025-12, donc c'est la cession du bien situé au 23 cours de la Libération à Vinet, cadastré AD156. Donc c'est la fameuse propriété qu'on a pu acquérir dans le cadre de l'artifice donc bien 100 mètres qu'on a fait valoir sous la saisie de la DGFiP. Donc, et aujourd'hui, cette parcelle, ce tènement, donc la propriété, où il y a une maison dessus sur la AD156, qui est en mauvais état, puisqu'il y a eu plusieurs procédures en péril qui ont été mises en cours durant les années précédentes. Donc aujourd'hui, il est proposé de vendre ce bien aux voisins à hauteur de 25 000 euros, en sachant que les domaines l'avaient estimé. Pour la rentrée dans notre patrimoine à 30 000 euros avec toujours bien sûr les plus ou moins 15%. Donc je vous propose qu'on cède cette parcelle pour ne pas supporter d'éventuels dégâts qu'on pourrait avoir dans les prochaines semaines à hauteur de 25 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. On remerciera quand même la DGFiP parce que du coup, dans cette opération, la commune a gagné 25 000 euros juste à faire la boîte aux lettres. Donc, pour une fois, on va les féliciter. C'est rare, mais on va le faire cette fois. Je redonne la parole à Myriam pour une convention.
Donc, la délibération numéro 13 porte sur la convention de disponibilité entre la ville et le SDIS. Donc je vous rappelle que dans le cadre du statut des sapeurs-pompiers volontaires, qui constitue un élément clé du maillage territorial, ils permettent d'assurer des secours en tout point du territoire et à tout moment. Dans le cadre du volontariat chez les sapeurs-pompiers, c'est donc devenu un enjeu majeur de société, notamment sur nos territoires ruraux, pour conforter l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Aujourd'hui, nous employons actuellement un agent qui est par ailleurs sapeur-pompier volontaire. Donc il s'agit d'un engagement très fort de sa part. Et ses départs inopinés pendant son temps de travail, en cas de nécessité, peuvent avoir une certaine désorganisation au niveau des services. Donc aujourd'hui, on met simplement... en place une convention qui se réadapte pour la disponibilité de celui-ci La précédente avait été signée en 2015 et suite à la validation d'un nouveau modèle de convention par le SDIS, il est proposé un nouveau format pour se substituer à celle qui existait. Si pas de questions, je mets au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci.
Oui, je pense que c'est très important qu'on apporte notre soutien aux sapeurs-pompiers, puisque vous savez quand même que le système aujourd'hui en France est assuré à plus de 80% par des volontaires. Chez nous, à Caserne de Vinay, à 100% par des volontaires. Donc c'est vraiment capital qu'on apporte notre soutien, même si je me désole une fois de plus que sur toutes ces fonctions régaliennes, l'État soit encore une fois absente, hein, puisque aujourd'hui c'est un organisme qui est un syndicat départemental, hein, puisque c'est le SDIS, hein, donc qui est financé à 50% par le département et 50% par les collectivités locales. Donc c'est quand même vraiment dommage, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un signal fort qu'on veut envoyer aussi en signant cette convention qui permet, à partir d'un certain nombre de jours, d'avoir le label employeur partenaire des sapeurs-pompiers. Et c'est sûrement quelque chose qu'on travaillera à l'avenir. Merci. Vanessa, pour la convention relative à la participation financière des communes extérieures.
Donc cette convention, on la délibère chaque année. Vous trouverez en annexe 3 la convention. Donc, ça concerne le centre médico-scolaire qui est situé à Saint-Marcelin. Donc, il nous demande de participer aux frais financiers qui sont les mêmes que l'année dernière, à hauteur de 3,70 euros par élève, sachant que nous avons 411 élèves pour cette année scolaire. Donc, soit un coût de 1520,70 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci.
Admiration numéro 15, donc c'est Jean-Pierre Monnet pour la convention pour l'organisation de la fête du Saint-Marcelin et de la Noix de
Voilà,
Grenoble.
Donc c'est la convention qu'on a signée l'année passée, qu'on signe chaque année maintenant depuis 2 ans avec Saint-Marcelin vers Corisère Communauté qui assure la coordination générale de l'événement et porte l'organisation principale avec 40%, la commune de Saint-Marcelin qui accueille l'événement sur une année sur deux. Cette année c'est Vinay, hein. Et mobilise ses services municipaux pour son bon déroulement et la commune de Vinay qui accueille l'événement cette année. Voilà. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
Oui, donc je rappelle, hein, fête de la Noix de Saint-Marcelin à Vinay le 14 et 15 juin. Donc je compte sur vous, je compte sur la presse pour le relayer à chaque fois que, ça soit, que c'est possible, que ce soit une grande fête, qu'on puisse promouvoir nos produits du territoire, parce que c'est aussi comme ça qu'on pourra avancer. Plus nos produits seront mis en avant et plus notre territoire sera attractif à l'échelle touristique. Et ça veut dire que ça engagera forcément de l'activité économique. Je rappelle aussi que... Le village de Saint-Antoine est aujourd'hui candidat pour être le plus beau village de France. Donc je vous invite à tous voter le plus de fois possible, puisqu'on a tout intérêt à ce que nos collègues soient promus village de France. Ça sera que bénéfique pour l'économie de notre territoire et la mise en avant de notre territoire.
On doit dire aussi qu'on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles pour la fête qui va se passer à Vinay. Donc... Avis à tout le monde.
On lancera dans les prochains jours. On est en train de finaliser l'aspect un peu technique pur avec les deux villes et l'interco et les confréries, puisque les confréries ont une part importante dedans. Et on fera une petite commission spécifique là-dessus pour vous expliquer à tout le monde et puis aussi voir comment on peut améliorer et rendre ces choses plus attractives. Toujours Vanessa sur le dépôt de livres.
Donc cette convention, délibération, on la passe aussi chaque année. Donc vous avez la convention en annexe 5. Ça concerne le dépôt-vente de notre livre Vinay, qui est au Grand Séchoir. donc au prix public de 25 euros et la commission au grand séchoir est de 4%, soit 1 euro par livre vendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci.
La délibération 17, c'est sur les réévaluations des tarifs et droits de place pour les forains cirques sur la commune.
Donc on va y aller progressivement, mais on va y aller. Hein. Donc pour réévaluer les tarifs des droits de place pour les forains, notamment dans le cadre des fêtes de la Rosière. Donc c'est une délibération qui vise à établir de nouveaux tarifs de droits de place applicables aux forains qui occupent donc notre domaine public. Dans le cadre de l'harmonisation des tarifs des droits de place pour ceux-ci, avec les pratiques courantes dans le département de l'Isère, et pour garantir une contribution qui soit équitable à l'utilisation de l'espace public, il est proposé de réévaluer les tarifs pour les activités sur Vinay. Donc on avait des tarifs qui étaient devenus assez obsolètes, hein. Une mise à jour était nécessaire pour mieux correspondre aux coûts d'entretien et d'aménagement des espaces utilisés, ainsi qu'aux tarifs en vigueur par rapport aux communes voisines. Je précise que ces tarifs incluent les services liés au stationnement des caravanes et camions de forains, ainsi que la consommation d'eau sur site, afin de simplifier la gestion des occupations du domaine public. Donc la réévaluation des tarifs, voilà, vous l'avez donc présenté ligne par ligne. Pour les forains, lors de la fête de la Rosière, on vous a mis un petit peu ce que cela représentait. Mais si vous voulez, je peux un peu plus rentrer dans les détails avec les manèges que l'on connaît chaque été. Par exemple... on va prendre un exemple qui parle, la chenille. La chenille, depuis 2009, était à 200 euros. J'ai pris le mauvais exemple.
C'était le danger.
C'était le danger. Le scooter, voilà, tarif depuis 2009 qui était à 200 euros. On propose une hausse à 40 euros, donc soit 240 euros. Pourquoi je vais revenir sur la chenille. En fait, le propriétaire de la chenille a plusieurs manèges. Donc, on augmente un petit peu fortement deux autres manèges, mais pas la chenille, qui représentait à peu près 200 euros. Voilà, et c'est au mètre carré. Et comme je le disais en préambule, on y va progressivement. Par exemple, la pêche au canard. Sur l'espace occupé, on passe de 40 euros à 120 euros. Au niveau des jeux de pinces, de 60 euros à 120 euros. Le trampoline de 40 euros à 120 euros, parce qu'il y a le trampoline et les chouros. Voilà, donc on essaie de marquer le coup pour cette année avec une hausse progressive, mais une hausse quand même. Hein. Donc voilà, ce sera annoncé lors de la préparation des fêtes de la Rosière. Et puis, je pense que l'on mettra peut-être lors d'une commission en place une étude un peu plus précise sur l'occupation des sols.
Des questions ? Donc, on est au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Eh bien, je laisse la parole à Jackie pour la... Je peux le faire, comme tu veux. Mais je me suis vu que c'était ton nom, du coup. Mais... Bon, allez, je prends, du coup, c'est le transfert de compétences de la création de et gestion d'un crématorium à Saint-Marcelin-Vercors-Isère-Communauté. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de crémations. Ça représente à peu près 43% des décès et qu'on n'a pas de crématorium sur le territoire et même sur le territoire proche. Donc il y a une réflexion qui est menée à l'échelle de la communauté de communes, de SMVIC, c'est de voir si on ne pourrait pas lancer un appel à un projet pour un crématorium à l'échelle intercommunale. Et bien sûr, de le donner après en DSP à un professionnel, puisque c'est quand même des métiers très spécifiques, moyennant bien sûr que ça soit tout pris en compte. Mais aujourd'hui, on a besoin de transférer la compétence, parce que la compétence, elle est commune par commune. Et pour avoir une réflexion qu'on puisse générer à l'échelle de la communauté de communes, on a besoin de transférer la compétence à l'interco pour que ce soit l'interco qui mène cet appel à projet. Voilà. Donc c'est pour vous proposer de dire, parce qu'à l'échelle communale, on n'a pas les possibilités de mener un projet comme ça, c'est qu'on délibère. Donc chaque commune de l'interco doit délibérer. Si tout le monde délibère dans ce sens-là, la communauté de communes lancera un projet. Ça ne veut pas dire que le crématorium ne pourra pas être avidé, hein, puisqu'après, il faudra trouver un terrain ad hoc. Mais en attendant, la compétence, on la transfère à l'intercommunalité, en sachant qu'aujourd'hui, on n'applique pas cette compétence. Du coup, c'est à charge zéro. Du coup, il n'y a pas d'impact sur la dotation de compensation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur le transfert de compétences à l'interco pour étudier, parce qu'on n'en verra peut-être jamais le jour, hein, mais en tous les cas, pour lancer la réflexion. S'il n'y a pas de questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et bon, on a épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie. Le prochain conseil municipal aura lieu le 26 mars pour le vote du budget. Et je crois que Jackie a quelque chose à vous faire part sur un moment de convivialité qui s'annonce au mois de mars.
Oui, donc moi j'ai refusé la crémation, c'est pas pour c'était pas un problème pour moi, mais c'était surtout pour vous dire une chose, les gens de Vinet dans la Marne, les vinetiers et les vinetières, viennent nous rencontrer, on les a rencontrés l'année dernière, ils viennent le week-end du 14, 15, 16 mars, donc c'est une délégation d'élus de Vinet. Donc on va les recevoir comme il se doit, et on leur proposait de faire, on vous propose de faire une petite soirée donc le 15 mars tous ensemble avec vos époux et vos épouses, et donc ça c'est, on lancera l'invitation demain, et je vous demanderai de me répondre assez rapidement pour qu'on organise l'événement, donc vous seriez tous les bienvenus pour faire un petit moment de convivialité, et puis rencontrer les gens de la Marne, voilà, donc merci d'avance de me répondre rapidement. Merci.
Il y aura également un moment aussi le dimanche matin et dimanche midi. Merci à tous, bonne soirée.